100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Kitaplarda anlatıldığına göre efendim bir kısa bir sürede veya birkaç yılda bir gemi yapılıyor. Bu gemiye dünyadaki bütün hayvanlardan bir çift alınıyor ve dünyayı su kaplıyor tamamen ve...
Bonjour à tous et à toutes, ça pourrait être drôle si ça ne commençait à devenir une habitude. Coup sur coup, ces dernières semaines, des universitaires turcs ont fait parler d'eux par leurs propos loufoques, voire carrément choquants. Revue de détails avec Anne Andlauer à Istanbul.
Si le Conseil de l'enseignement supérieur turc organisait un concours, la palme du loufoque reviendrait sans conteste à Yavuz Örnek, de la faculté des sciences marines de l'université d'Istanbul, auteur d'une théorie tout à fait personnelle sur l'Arche de Noé. L'universitaire a soutenu, en direct sur une chaîne de télévision publique, que Noé aurait persuadé son fils d'embarquer à bord de l'Arche afin d'échapper au déluge en le contactant par téléphone portable. Sa démonstration vaut la peine d'être citée in extenso. Il y avait d'énormes vagues et son fils était à plusieurs kilomètres. Le Coran dit que Noé a parlé avec son fils, mais comment ont-ils réussi à communiquer ? Était-ce un miracle ? Je crois surtout qu'il a communiqué avec son fils par téléphone portable, a déclaré Yavuz Örnek, et d'expliquer ensuite que la mythique embarcation fonctionnait à l'énergie nucléaire. « Je suis un scientifique, je parle pour la science », s'est argué l'universitaire devant une présentatrice visiblement interloquée. À Antalya, ce ne sont pas les récits sacrés, mais les mondes extraterrestres qu'un enseignant se propose d'explorer. Un centre de recherche de l'université Akdeniz a très sérieusement ajouté un cours d'ufologie, c'est-à-dire d'études des ovnis, à son programme officiel afin de préparer les élèves à de possibles contacts avec des visiteurs de l'espace. Apparemment, il y a urgence. Erhan Kolbacheux, l'enseignant chargé de ce cours, soutient que de telles rencontres du troisième type auront lieu d'ici 10 ou 15 ans. Dans un tout autre genre, enfin, Alparslan Durmuş, chef du comité sur les programmes scolaires au sein du ministère de l'Éducation turque. Diplômé de théologie, c'est lui que le gouvernement a choisi pour annoncer, lors de la dernière rentrée, la suppression de la théorie de l'évolution des programmes. Pour souligner que cette théorie n'était qu'une théorie parmi d'autres, que l'on pouvait choisir d'utiliser ou pas, le responsable a eu cette fulgurance, je le cite, « Croyez-vous au tournevis ? Croyez-vous à la pince ? Non. Utilisez-vous la pince ? Oui. » De la même manière, est-ce que je crois à l'évolution ? Non. Est-ce que je pourrais l'utiliser ? Oui. Fin de citation. Comprenne qui pourra.
La semaine dernière, dans Accent, nous vous avons parlé de ces 20 000 immigrés économiques ukrainiens en Lituanie, où ils sont chauffeurs routiers, cuisiniers, soudeurs ou maçons. Un exil qu'on retrouve massivement en Pologne, où il serait plus d'un million. Ces départs commencent à poser de sérieux problèmes en Ukraine. Les employeurs ne trouvent plus de main-d'œuvre. Dans certains secteurs, les entrepreneurs doivent même ralentir leur activité faute de personnes à recruter. Un phénomène largement relayé dans les médias et sur les réseaux sociaux. À Kiev, le reportage de Sébastien Gobert.
« 6h du matin, c'est le début de l'émission Petit Déjeuner sur la chaîne de télévision 1+1. Et malgré l'heure matinale, le présentateur lance un débat très sérieux avec son invité, l'entrepreneur Valérie Pécard.
« Beaucoup d'entrepreneurs et d'employés s'en vont, alors même qu'il y a déjà plus de 200 000 postes qui ne sont pas occupés sur le marché du travail. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des dizaines, des centaines, voire des milliers d'employés. »
Le présentateur alimente le débat avec des citations tirées des réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, une vaste succession de posts reprend le hashtag Povitria Emigratsi, le vent de l'émigration, pour commenter un phénomène inédit. Les entrepreneurs ukrainiens peinent à recruter des nouveaux employés. Confrontée à une guerre d'usure dans ses régions est, l'Ukraine souffre d'une très grave crise économique depuis 2014. Le salaire moyen s'élève à environ 250 euros, et il est constamment réduit par la dévaluation régulière de la monnaie par rapport à l'euro et au dollar. L'émigration est donc un choix très pragmatique. À l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, à Kiev, l'experte Anastasia Vinichenko confirme la tendance.
Le nombre de départs des Ukrainiens ne faiblit pas. En fait, il y en a de plus en plus. Une étude de l'Organisation internationale des migrations le confirme. Nous estimons que 915 000 Ukrainiens sont déjà partis pour trouver du travail ailleurs. Cela représente 2% de la population. Et on estime qu'en Ukraine, il y a potentiellement 12% de la population qui pourrait aller chercher du travail ailleurs.
Ailleurs, ça veut dire la Russie et les pays de l'Union européenne. En premier lieu, la Pologne voisine. Elle-même pays d'émigration, elle souffre actuellement d'un manque de main-d'œuvre, des maçons, des techniciens, des ouvriers ou encore des plombiers. Selon l'OIM, il serait entre 200 000 et 500 000 Ukrainiens à y travailler. Certaines estimations relayées dans les médias placent la barre à plus de 1 million de personnes. Elles peuvent y gagner entre 500 et 800 euros, soit deux fois plus que pour des emplois similaires en Ukraine. Pendant longtemps, l'émigration ukrainienne a été perçue comme un facteur de développement. Les migrants y gagnent en qualification et renvoient une partie de leurs revenus au pays. L'Ukraine, grand pays de 46 millions d'habitants, semblait être en mesure d'encaisser cet exode de main-d'œuvre. Or, la situation actuelle inquiète les entrepreneurs ukrainiens en premier lieu, mais aussi les investisseurs étrangers désireux de s'installer dans le pays. Olia Sivak est la directrice du département des investissements de la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine.
C'est l'une des premières questions que nous posent les investisseurs étrangers quant aux conditions de leur installation ici. La disponibilité des travailleurs, la taille du bassin d'emploi, les qualifications des demandeurs d'emploi.
Olia Sivak a vu beaucoup d'Ukrainiens quitter le pays, temporairement ou de façon définitive. Elle se veut optimiste. Pour elle, c'est aussi aux investisseurs d'adapter leur stratégie.
Beaucoup de sociétés d'Europe de l'Ouest ont une idée fausse du niveau de salaire en Ukraine. Ils nous voient comme un pays très peu développé et croient qu'il suffit de payer 100 euros par mois pour embaucher des employés. 100 euros par mois, ça, il faut oublier, ça n'existe pas. Mais pour 300 euros par mois, on peut recruter du personnel compétent.
Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, comme l'observe Yuri Sametz, chef d'une petite entreprise familiale d'une quinzaine d'employés à Lviv. Pour lui, fabricant de chemises, la situation n'est pas la plus facile, mais il a su retrouver suffisamment d'employés pour faire tourner son entreprise. Beaucoup de migrants, selon lui, commencent déjà à déchanter de leur séjour en Pologne.
Petit à petit, ils reviennent à la maison, parce que ça coûte de l'argent de vivre là-bas, de faire la navette entre leur famille ici et le travail là-bas. Au bout du compte, entre un salaire de 500 euros là-bas et 300 euros ici, il n'y a pas une grande différence.
Et lui aussi, il se veut optimiste.
J'ai ouvert une école avec deux autres sociétés, c'est-à-dire un centre de formation pour des cadres et ingénieurs. Nous allons préparer nos futurs employés en leur expliquant que l'on peut très bien gagner sa vie ici, que nous offrons des emplois de qualité.
L'Ukraine, comme l'ensemble de l'Europe post-communiste, subit un déclin démographique dramatique, exacerbé par une émigration conséquente. Est-ce une fatalité ou une opportunité? Les entrepreneurs du pays ne cessent de se poser la question.
La situation vient de revenir à la normale dans les prisons françaises après deux semaines de mobilisation des surveillants. Un mouvement déclenché suite à l'agression de trois gardiens. Les revendications concernant la sécurité des surveillants se sont rapidement élargies à l'ensemble des conditions de travail, aux effectifs et aux rémunérations. Le calme est revenu suite à un accord entre la chancellerie et le syndicat majoritaire. Quelle est la situation chez nos voisins européens? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Le malaise des gardiens de prison n'est pas spécifique à la France.
Non. Après avoir mené des mouvements de grève et de blocage l'an dernier et en 2016, les gardiens belges ont déposé cette semaine de nouveaux préavis de grève pour protester notamment contre le manque de personnel. En Italie, les mouvements de protestation sont assez fréquents dans les prisons. Le dernier en date s'étant déroulé début janvier dans les Pouilles. Les prisons espagnoles ont également connu des mouvements ces dernières années. Il faut dire que la montée de la violence, souvent liée à la radicalisation des détenus, est générale en Europe. Les gardiens sont donc légitimement inquiets des conditions d'exercice de leur profession.
Un point important concerne le port ou non d'armes par les gardiens. Et là encore, les situations varient en Europe, Daniel.
Précisons d'abord qu'en France, les gardiens peuvent, selon les circonstances, être autorisés à porter des armes par le directeur de l'administration pénitentiaire. Un système au cas par cas que l'on retrouve en Allemagne ou en Espagne, les gardiens espagnols étant toutefois équipés de pistolets Taser. Pas d'armes non plus au Royaume-Uni, où les agents peuvent désormais se servir de vaporisateurs à poivre, et encore moins dans les pays scandinaves, où les gardiens sont plus des travailleurs sociaux que des surveillants. Même en Italie, où les gardiens font partie de la police pénitentiaire, le port d'armes est assez encadré.
Les salaires des gardiens de prison sont-ils homogènes en Europe ?
Le salaire brut mensuel du surveillant de base français est en moyenne 2800 euros. Mais avec les primes diverses, sa rémunération effective est d'environ 2250 euros. Un niveau assez comparable à celui des autres pays d'Europe de l'Ouest, mais la rémunération des gardiens italiens est inférieure et celle des surveillants allemands plus élevée puisqu'elle atteint 2700 euros brut.
Les gardiens mettent souvent en avant un manque d'effectifs de gardiens dans les prisons, revendication légitime.
À cet égard, la situation française est médiane. Avec 28 000 gardiens pour 69 500 détenus, les gardiens français surveillent en moyenne 2,5 prisonniers. Ils sont mieux lotis que leurs homologues britanniques ou espagnols, 3,5 détenus par gardien, mais dans une situation un peu plus tendue que les gardiens allemands, belges ou finlandais, de 1,8 à 2,2 détenus par gardien. Ils sont en revanche nettement plus sollicités que les surveillants italiens, néerlandais ou scandinaves, qui ne gèrent chacun que 1,5 voire 1,3 détenus seulement.
Autre point préoccupant, la surpopulation carcérale, qu'en est-il dans les différents pays ?
Elle est élevée et s'est accentuée ces dernières années. Avec 118 détenus pour 100 places de prison, la France est le pays où la surpopulation carcérale est la plus forte de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie qui frise les 130. Mais deux pays ne sont pas très loin, la Belgique avec 116 détenus pour 100 places de prison et l'Italie avec 113. Ce n'est pas un hasard si ces deux pays, avec la France, connaissent des protestations de surveillants de prison, ce qui montre combien la question de la surpopulation carcérale est un facteur déterminant du malaise des gardiens. Dans beaucoup d'autres pays, les prisons sont en surcapacité, légère comme au Royaume-Uni ou en Finlande, mais beaucoup plus prononcée en Suède, au Danemark ou en Allemagne, où le taux d'occupation n'est que de 85 à 90%. Et puis, aux Pays-Bas, on ne compte que 75 détenus pour 100 places de prison, au point que ce pays en est venu à louer des prisons à l'administration pénitentiaire belge.
Quelle est donc la cause de ce miracle pénitentiaire néerlandais ?
Il s'agit d'un changement des pratiques pénales par rapport à un système traditionnellement répressif. Non que la justice néerlandaise soit devenue laxiste, mais par souci d'économie, de nombreuses peines de prison ferme ont été transformées en peines non privatives de liberté assorties de contrôles drastiques. Du coup, entre 2005 et 2015, le nombre de détenus aux Pays-Bas a diminué de plus de 40%. L'Allemagne ou la Scandinavie ont connu une baisse des personnes incarcérées de l'ordre de 20%, et l'on constate une baisse également d'environ 10% en Italie. En revanche, sur cette période, la population carcérale a beaucoup augmenté en Belgique, plus 37%, et dans une moindre mesure en France et au Royaume-Uni, plus 13,5%. Mais cette hausse du nombre des prisonniers s'accentue en France et atteint aujourd'hui 21% par rapport à 2005.
La France serait donc un pays particulièrement répressif, Daniel ?
Avec un taux d'emprisonnement de 104 pour 100 000 habitants, la France est nettement plus répressive que l'Italie, 85 pour 100 000, l'Allemagne, 72, les Pays-Bas ou la Scandinavie, entre 50 et 60. Elle est cependant nettement moins répressive que l'Espagne, 135, ou que le Royaume-Uni, 145. En réalité, si l'on veut améliorer durablement la situation des prisons et du personnel pénitentiaire en France, le gouvernement devrait, à côté de la construction programmée de 12 500 places de prison supplémentaires, diversifier bien davantage ses réponses pénales à la délinquance. Le but est que les prisons ne soient plus, comme actuellement, un facteur d'aggravation de la criminalité.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt dans Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
On voit en lui un ancêtre des moteurs de recherche modernes. Et certains voient en ses inventeurs les pères lointains d'Internet. Créé en Belgique à la fin du 19e siècle, le Mundaneum avait pour ambition de réunir dans un même lieu toutes les connaissances du monde et sous toutes ses formes, livres, affiches, journaux, tout type de documents papier, avec un idéal pacifiste. Le Mundaneum qui, il y a 2 ans, a reçu le label du patrimoine européen, ce qui lui permet aujourd'hui de s'ouvrir encore davantage. Reportage à Mons d'Alice de Bâtisse.
Le Mundaneum naît à Bruxelles en septembre 1895. Son but est de réunir l'ensemble de la connaissance humaine, en d'autres mots, de référencer les ouvrages publiés dans le monde entier depuis l'invention de l'imprimerie. Entre 1895 et 1934, 18 millions de fiches sont rédigées. Elles sont classées dans un mobilier comprenant 15 000 tiroirs.
Ces 15 000 tiroirs bruns, les visiteurs peuvent les découvrir sur les murs du Mundaneum qui s'étendent sur 3 étages. À l'intérieur, les fiches que constitue ce fameux répertoire bibliographique. Pour s'y retrouver, ces 2 créateurs, Paul Hautelet et Henri Lafontaine, inventent un système de classement, la CDU, la classification décimale universelle. Vous la connaissez déjà, elle est utilisée maintenant dans toutes les bibliothèques. Nicolas Brunel, qui travaille au Mundaneum, nous explique.
Paul Hautelet et Henri Lafontaine ont divisé l'ensemble du savoir humain en 10 classes. Ces 10 classes, en fait, ils les ont numérotées, tout simplement dans un objectif d'internationalisme. Si on prend l'exemple de la voiture, en français, donc c'est voiture, on va le classer à V. En néerlandais, c'est wagon, on va le classer à W, etc. Tandis qu'avec la CDU, étant donné qu'une cote chiffrée est attribuée à cette fameuse voiture, cette cote chiffrée sera toujours la même que l'on soit dans un pays francophone, néerlandophone, anglophone, etc.
À l'époque, beaucoup de chercheurs font appel au Mundaneum et il est encore utilisé aujourd'hui.
Et les archives que nous conservons sont régulièrement consultées par énormément de gens différents. Les gens auxquels on s'attend le plus, ce sont par exemple les chercheurs, les universitaires, énormément d'artistes viennent nous voir aussi, vu la richesse de nos collections iconographiques. Mais n'importe qui peut venir ici. Il y a quelque temps, une personne s'est adressée à nous pour avoir des informations sur le club de balle-pelote de Carnion-Rivage.
Récemment, 2 Japonais avaient également fait le déplacement. Ils avaient pu consulter des documents entreposés sous nos pieds dans les sous-sols du Mundaneum. Stéphanie Monfroy nous fait visiter.
Voilà, nous arrivons dans le dépôt. Je vous en prie. Et dans ce dépôt, en fait, il y a la plupart des collections du Mundaneum, donc du centre d'archives.
Devant nous, 6 kilomètres de documents réunis par 2 utopistes qui rêvaient de paix.
Donc ce catalogue universel était créé pour faire la paix et faciliter la coopération intellectuelle entre les différentes personnes du monde et en partant du principe simple qu'en se connaissant, eh bien, on n'essaye pas de se faire la guerre. Et donc ça, c'est un principe vraiment fondamental que l'on a repris dans le cadre du label du patrimoine européen sous le vocable de laboratoire de la paix par la culture.
Outre son caractère pacifique, le Mundaneum a également été sélectionné par la Commission européenne pour une autre raison. Il est considéré comme l'ancêtre du moteur de recherche. On parle d'un Google de papier. Cela fait maintenant 2 ans que le site est labellisé. Qu'est-ce que ça a changé ? Stéphanie Monfroy nous répond.
Alors, il a apporté beaucoup de rencontres avec ses partenaires européens parce qu'il y a un travail assez important entre les membres du réseau. On s'est déjà vu plusieurs fois et l'idée est effectivement de travailler ensemble et de transmettre une information, mais de collaborer ensemble. Donc, il y a du bilatéralisme ou du multilatéralisme qui est demandé et donc c'est de voir les points communs que l'on peut avoir entre nous.
Le Mundaneum a reçu l'année dernière une exposition polonaise. L'idée de ce label européen est donc bien de créer des liens culturels entre les États membres et peut-être de créer une histoire commune.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr, à la page émission et sur notre appli Pure Radio. Je vous retrouve demain dès 12h40 en universel.